Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Est-ce que déjà pour commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, vous voulez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites chez Doctolib ?
Vas-y, non, on commence par le haut.
Ok, bon. Bah, du coup, moi je suis Cédric, j'ai la responsabilité de toutes les activités cyber du groupe Doctolib.
Très clair. Et donc au quotidien, ton travail ressemble à quoi ?
Bah, c'est de gérer une équipe de joyeux drilles qui essayent de protéger toutes nos infrastructures.
Et c'est une équipe de combien à peu près pour toi ?
Aujourd'hui, on est il y a 21 ingénieurs à temps plein et après on a une quote-part des équipes de la tech et d'autres équipes qui contribuent à la sécurité. Donc en nombre d'équivalents temps plein, on est plutôt entre 60 et 100 personnes.
OK. Et donc que des profils plutôt cyber.
Ouais, l'équipe sécu c'est 100% des ingés cyber, ouais.
OK. Donc
moi, donc Clément.
Ouais. Et toi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais ? Quelle est ta formation ?
Du coup, moi, je suis dans une partie. Cédric, il le dit pas, mais il a plusieurs équipes qui sont en plus ou moins spécifiques. Okay. Et moi, mon équipe, on aide les développeurs à développer correctement. On va auditer leur code, on va regarder ce qu'ils font, on va leur faire des préquos un peu sur les algos à utiliser, la manière de développer. Okay. Voilà, je fais la sécurité des développements.
Donc, dans ta journée, c'est lire du code.
C'est pas lire du code, c'est lire des descriptifs des devs qui nous disent bah on va faire ça comme ça. Donc moi je vais aller.
Peut-être tu dois repérer tout ce qui va pas. Et tout
je leur dis ça, c'est peut-être pas une bonne idée de faire comme ça. On va peut-être utiliser plutôt tel algo, telle manière de faire. Et après ils codent et là on va regarder le code qu'ils font et dire bah ça me paraît ok.
Ok. Ah, c'est hyper intéressant. Et donc j'imagine que vous avez aussi du défensif. Est-ce que vous avez des gens qui essaient de vous auto-hacker, des trucs comme ça?
Ouais, on a des équipes on a une red team, ouais, chez nous. Okay. Donc c'est la grosse bataille entre la red team et la blue team. On a un compteur où on met des scores en mode de, on t'a pas vu, on t'a vu.
Bah justement, on spoil pas trop parce qu'on va revenir entre autres sur ça. Juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre vos micros, je suis désolé, bien en bas, pas trop haut justement, au niveau du menton à peu près, pour qu'on vous voit bien. Parfait. Ce serait dommage. Aujourd'hui, on reçoit donc Cédric et Clément qui travaillent dans la sécurité informatique d'un des plus gros sites en France. On peut dire quand même Doctolib, ça n'est pas rien. C'est une collaboration commerciale très particulière parce que j'attends de la faire en fait depuis très très longtemps. Vous le savez peut-être, j'en avais d'ailleurs parlé en live. C'est comme ça que toute cette histoire a commencé. C'est que je désespère depuis des années de discuter avec des hackers et des équipes de cybersécurité qui parleraient sans filtre de ces comment exactement de protéger une boîte de cette taille en 2024. Quelles sont les attaques les plus folles ou les plus tordues que vous ayez jamais subies? Si oui, qui était derrière, si vous le savez? Est-ce que c'est stressant comme métier? Enfin, plein de questions que les gens peuvent se poser. On verra à quelles questions vous pouvez répondre et à quelles questions vous ne pouvez pas répondre. Mais surtout, et c'est ça qui va nous intéresser, on va revenir dans le détail sur l'une des plus grosses cyberattaques que vous ayez eues de votre histoire. C'était au beau milieu de l'été, il y a quelques années. Vous allez nous expliquer tout ça. Avant, est-ce que... déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Franchement, ça fait très plaisir.
Merci à toi de nous recevoir.
Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment tout ça c'est venu d'où ? Qui était là ce jour de live et a eu l'idée de venir, tout simplement ?
Bon, on est plusieurs à suivre quand même l'émission. Okay. Et du coup, on t'a entendu dire exactement ça. On a la recherche... de boîtes qui seraient prêtes à parler de ce qu'elles ont vécu. Donc nous on s'est dit bah c'est intéressant. Donc on a vu avec les gens de la com, on s'est dit peut-être qu'on peut en parler parce que nous ça ne nous dérange pas, on est hyper transparent sur ce qu'on fait et ce qu'on vit. Donc
ils ont été durs à convaincre.
Non. Hyper motivé.
Bah c'est trop bien. C'est trop intéressant parce que justement il peut y avoir parfois des petites réticences à parler de cybersécurité, mais ça paraît absurde parce que au contraire, je trouve que c'est justement en ayant une démarche où on se partage un peu pour que les gens découvrent comment on sécurise bien une entreprise, on sait bien que la sécurité à 100%, ça n'est pas possible. Ce qu'on fait constamment, c'est construire le château le plus robuste, mais c'est vous qui allez nous parler de ça. Est-ce que Cédric, justement, c'est quoi, toi, ton point de vue sur le fait de s'exprimer sur ces sujets-là? Est-ce que t'as eu une petite réticence avant de venir ou pas du tout?
Franchement, pas de réticence. On en a, c'est un sujet auquel on réfléchit depuis pas mal d'années. Et puis, la maturité venant, on s'est dit qu'effectivement, on avait pas mal de choses à partager. On a quand même une infrastructure qui est très, très particulière. En termes de chiffres, c'est assez éloquent. On en discutait tout à l'heure avec Clément. Par exemple, on a une base de données qui fait 25 téra de mémoire vive. Donc, qui est probablement une des plus grosses bases de données transactionnelles hébergées en Europe. On a une volumétrie de trafic qui est de l'ordre de 2 milliards de requêtes par jour, 100 millions de visites uniques. Donc, c'est un écosystème qui est super intéressant d'un point de vue de sécu. On a des équipes de dev qui font 3 mises en prod par jour. Donc, ça te laisse imaginer un peu tout ce que ça implique en termes de suivi des devs, les procédures. Donc, c'est un écosystème qui est super sympa. Et en fait, il y a une partie de l'idée qui est venue du fait que nous, quand on cherche des solutions à nos problématiques, on n'en trouve jamais. Et il y a probablement des boîtes qui sont dans la même position que nous. Et on s'est dit que si on avait un peu de choses à partager, c'était une bonne idée de le faire.
Eh ben, ça fait très très plaisir, clairement. Déjà, pour commencer, pour peindre le tableau, c'est quoi vos principaux enjeux en cyber pour une boîte de cette envergure? Par exemple, il y a combien de personnes qui sont dédiées uniquement à la cybersécurité chez vous?
Alors, à temps plein, vraiment, on a 4 équipes, ça représente 21 personnes, vraiment. Donc 100% ingé sécu, et ils ne font que ça de leur journée. On a l'activité de l'équipe de Clément, donc ce qu'on appelle Product Security en interne, qui est là pour aider les développeurs à produire du code sécurisé. On a une équipe qui est vraiment tournée juste sur la sécurité de la plateforme, donc toute la partie cloud. Une autre partie de l'équipe qui fait toute la partie sécurité de l'environnement qu'on donne aux employés de Doctolib pour travailler. Et après, on a cette fameuse Red Team, Blue Team.
Donc, pour expliquer aux gens, c'est quoi le concept? On dirait pour l'instant un jeu vidéo.
Alors, Red Team, Blue Team, c'est les rouges, c'est les attaquants. Les bleus, c'est les défenseurs. Donc, les bleus doivent détecter tout ce qui est généré par les attaquants. Et la réciproque est vraie, les rouges ne doivent pas se faire attraper par les bleus. Jusqu'à présent, les bleus ont gagné.
Et juste pour savoir, c'est quoi ça se passe? Il y a une journée bataille, entre guillemets, comme non, dans CS, alors, on joue à CS?
Tous les jours, c'est bataille.
L'équipe rouge, elle a un mandat, et un seul mandat, elle a le droit de tout péter à n'importe quel moment. S'ils y arrivent, charge à l'équipe bleue de mettre en place les mécanismes qui ont été... bypasser par l'équipe rouge, d'aller voir les devs, etc., etc. Donc, c'est comme ça que fonctionne. Donc, leur seul mandat, c'est de tout péter.
Et donc, moi, si mon job, c'était d'être en red team chez Doctolib, mon quotidien, ce serait littéralement d'essayer de...
Ah oui, t'as le droit de ficher, t'as le droit de faire du phishing à d'autres employés, ils font vraiment ce qu'ils veulent.
C'est génial. Est-ce que, c'est quoi les attaques les plus marrantes ou entre guillemets spectaculaires qui ont été tentées?
Alors en fait, on a discuté avec d'autres boîtes, et donc je vais citer Antonin qui est le CISO de VP avec qui nous a partagé une partie de cette approche-là. Donc on a repris ce qu'il appelle un flag. Donc en fait, on va pas vouloir jouer 100% de l'attaque, mais on va donner à l'équipe Red Team un point de départ. On va considérer qu'ils ont compromis un compte, par exemple. Donc ils ont accès à un compte de Doctolib. Et à partir de ça, on va leur demander d'aller le plus loin possible. Donc le dernier flag marrant qu'on a fait, c'était vous avez pris le contrôle d'un compte de dev, objectif exfiltrer la base de données ou prendre le contrôle sur la prod. Voilà. Donc cette attaque, elle s'appelle Silent Chipmunk en interne. Et ça a marché.
Oh, ok. Donc ils ont pas réussi l'ensemble de
l'attaque. Ils ont pas piqué la base de données, mais ils ont eu un compte-route sur la prod.
Très stylé. Et bon, alors, sans que ce soit trop complexe, est-ce que... on peut donner une image de ce qu'ils ont réussi à faire, comment ils ont réussi?
Ouais, ils ont exploité une vulnérabilité dans notre outil de gestion de code. Ça leur a permis de sortir un secret qui leur a permis d'élever des leurs privilèges. Et après, ils se sont baladés dans l'infra et ils ont récupéré un compte-route.
Très stylé. Alors, les avantages qu'ils ont par rapport à des vrais hackers, c'est qu'ils connaissent l'infra.
Exactement.
Ouais,
et qu'ils partent pas de zéro.
Mais pour nous, c'était important aussi parce que... il y a les attaques externes qui sont vraiment très importantes pour nous. On est très exposés, donc on y fait très très attention, mais on fait aussi super attention à l'interne.
Et suite à ça, on remonte des trucs aux éditeurs justement de solutions de gestion de code pour leur dire il y a un truc qu'ils ont utilisé qui est peut-être pas très clair dans votre doc, qui est exploitable et qui est assez limite. Donc voilà, on remonte aussi des trucs à l'extérieur en disant les problématiques ne sont pas que chez nous sur de la configuration. Par exemple, l'outil n'est peut-être pas fou.
Ok. Alors du coup, justement, pour expliquer ce que toi tu fais, Clément, c'est que mettons vous découvrez une vulnérabilité ou une problématique, quelque chose qui est mal implémenté, des choses comme ça. Qu'est-ce que toi tu fais à partir de ça? Alors ça n'arrive plus.
Alors, en fonction de comment ça remonte en soi, on va déclencher ce qu'on appelle des crises, en gros, des crises, on appelle ça. Donc là, il y a tout le monde.
Dire, c'est la merde, en gros.
C'est la merde, ça sonne de partout. Il y a les téléphones de plein de gens qui se mettent à sonner en disant, il y a un problème. Et en fonction, on va aller voir l'équipe de développement qui s'occupe de ça. On va leur dire, bon, on se pose où est le problème, il faut qu'on trouve le problème. Et après, en fonction de où est le problème, on va le patcher le plus rapidement possible. Donc ce que disait Cédric, on fait 3 mises en prod par jour, mais le jour où on a un gros problème, dans le quart d'heure, on est capable de patcher, de mettre en prod. Et donc quand on fait ça, et après on va écrire ce qu'on appelle des post-mortem, ça vient un peu de tout ce qui est aviation, où tu vas faire des retours sur ce qui s'est passé, et là tu vas expliquer d'où vient la vulnérabilité, pourquoi on l'a, et alors il y a plein de procédures, et c'est assez guidé, mais on va avoir des trucs qu'on appelle les 5 why, donc les 5 pourquoi, donc on va expliquer pourquoi c'est arrivé, et alors on fait une explication pourquoi ce truc-là est arrivé, et on fait 5 fois, jusqu'à se dire l'origine réelle du problème c'est ça,
okay.
Donc il faut corriger ça, et alors après on appelle des plans d'action pour aller corriger tout ça.
Et donc toi, t'expliquais notamment ta spécialité, c'est tout ce qui est le développement correct ou le développement sécurisé. Donc ton job, c'est de conseiller les développeurs pour qu'ils n'introduisent pas de failles.
Ouais.
Parce que les failles peuvent être dans des outils développés par d'autres gens, mais c'est régulièrement des choses internes. Comment tu deviens checker de code, comment tu deviens spécialiste en code sécurisé?
Checker de code, je vais nommer comme ça sur Slack.
Mais c'est pas mon titre. Globalement, j'ai une appétence pour le dev depuis toujours, et puis pour la sécu, j'ai fait des classiques. Hein. J'ai piraté mon collège, mon lycée, des trucs que tout le monde a un peu fait. Après, j'ai un parcours qui est pas hyper classique à l'époque. Moi, quand j'ai commencé, c'était il y a 10 ans, il n'y avait pas d'école de sécu, il n'y avait pas. Donc j'ai fait une école d'ingé hyper classique. Donc il y a pas de voilà, je suis arrivé là en me disant ça m'intéresse le dev, j'ai fait du pen test. Et quand tu fais du pen test, à un moment tu sais ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas, et quand tu arrives à faire du développement web, aller chercher des vulnérabilités dans du code web, des trucs comme ça, tu commences un peu à te spécialiser dans le développement, et je suis arrivé comme ça.
Tu commences à savoir c'est quoi le bon algorithme, c'est quoi la bonne manière d'implémenter.
Ça a souvent été du côté raid avant de passer du côté bout, tu sais comment ça marche.
C'est souvent comme ça. Alors, pour commencer sur des choses un petit peu simples, entre guillemets, est-ce que vous êtes victime de DDoS, par exemple?
Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. En fait, on a une volumétrie de trafic qui est tellement énorme qu'on a beaucoup de trafic qu'on pourrait appeler garbage, donc trafic poubelle, qui va s'insérer là-dedans, et en fait, ce qu'on va détecter, nous, c'est des pics, et suivant la durée et l'intensité, on va considérer ça comme un DDoS. Donc parfois, c'est des trucs qui sont générés automatiquement, parfois, c'est des choses qui sont vraiment très très ciblées.
Il paraît que, par exemple, vous êtes fait DDoS par le président.
Celui-là, c'est le plus beau qu'on ait jamais fait. Celui-là était vraiment magique. Ouais. En fait, faut se remettre un peu dans le contexte. C'est contexte de pandémie, au moment de la deuxième campagne de vaccination. On était un des 3 prestataires retenus par l'État pour aider les gens à se faire vacciner, donc il n'y avait pas que nous sur ce sujet-là. Et un soir, on a le président Macron qui, le 12 juillet, si ma mémoire est bonne, qui passe à la télévision à 20h et qui explique à tout le monde que pour l'été, si vous voulez pouvoir aller boire un verre dans les bars, faire la fête, il vous faut absolument une deuxième dose de vaccin. Et là, on s'est fait défoncer.
Alors que pourtant, vous avez des infrastructures solides, des trucs comme ça.
Ouais.
Mais là, faut se dire que c'est passé sur toutes les télés de France, de Navarre.
En fait, c'est assez marrant parce qu'on avait des métriques précédentes. On a Stan, notre PDG, qui passe assez régulièrement, ou à cette époque-là, qui passait assez régulièrement à la télé aussi, parce que c'était un sujet d'actualité. En gros, quand Stan passe à la télé, notre trafic fait x3, mais on est prévenu que Stan va à la télé. Donc, nos équipes nous disent « Attention, ce soir, il y a Stan ». Voilà, préparer l'infra, ça va peut-être tousser un peu. Malheureusement, on n'a pas ce même niveau de connivence avec le président.
Avec Emmanuel Macron.
Et lui, quand il passe à la télé, notre trafic, il fait x10.
Et il nous prévient pas.
Et il nous prévient pas. Et même si on a des mécanismes qu'on appelle l'autoscaling, donc en fait, notre infra, elle est élastique, c'est-à-dire que elle augmente et elle réduit en fonction de la charge qui est appliquée dessus. C'est un mécanisme qui prend 15 minutes à peu près pour arriver à soutenir la charge. Et en moins de 15 minutes, on s'est fait bien tabasser, ouais.
Il suffit que le pic soit suffisamment court et
il était très très
intense.
Violent, ouais. Ouais, il était vraiment violent. Ah oui, vraiment, on a fait x10 en trafic en moins de 3 minutes, je pense. Ouais, moins de 3 minutes.
Et est-ce que, donc ça c'est un exemple fortuit, entre guillemets, est-ce que vous avez vraiment des DDoS dont vous savez qu'ils sont malicieux, et le genre de raison qui pourrait expliquer ça?
Alors, il y en a eu pas mal pendant la pandémie, en fait. Pour des raisons plutôt liées à de l'activisme. Donc il y avait, je sais pas si tu te souviens, mais t'avais les pro-vaccins, les anti-vaccins, donc il y a eu des choses qui sont arrivées comme ça. Il y a eu aussi un peu de contexte géopolitique parce que Bon, y a, dans certaines situations, les positions du gouvernement français vis-à-vis de ça n'étaient pas en lien avec celles de certains autres pays. Donc on a pris un peu de trafic. Et plus récemment, là, on a vu des premiers DDoS qui ressemblaient très très fortement à des choses très automatisées, voire liées à des, de la génération via de l'AI.
D'accord.
Donc ça, c'était, et ça, c'est très récent, c'est arrivé au mois d'août.
Donc ça veut dire que des acteurs malveillants essaient de pourrir votre plateforme avec du contenu généré par IA.
Ouais. Ouais, plus... Et en fait, mais la typologie, elle change, parce qu'une attaque DDoS, globalement, c'est quelque chose qui est assez violent, mais assez long dans le temps. Donc ça s'arrête pas... La moyenne, c'est ça dure à peu près 10 minutes. Là, les dernières qu'on a vues, c'était des grosses résurgences de trafic, mais sur un temps beaucoup plus court que ça, inférieur à 3 minutes. Et après, on a vu une évolution dans les mécanismes qui étaient utilisés, assez, et qui, c'était assez bluffant parce que c'était vraiment très intelligent, dans le sens où l'attaquant ou les attaquants arrivaient à détecter de manière assez fine les mécanismes qu'on avait mis en face pour se protéger. Donc en fait, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc on a pareil, on a dû tourner quelques boutons, mais celle-là, elle était, c'était assez drôle. Ouais.
Alors qu'on pourrait se dire que tout ce qui est spam, des DDoS, des choses comme ça, c'est plutôt dans le bas de la sophistication, on va dire, c'est assez simple. Mais là, non, il y avait une vraie adaptation de l'ennemi, entre guillemets.
Les premiers niveaux, entre guillemets, étaient assez simples.
Ouais.
Et puis après, oui, effectivement, ils commençaient à injecter des caractères spéciaux dans certains trucs, ça faisait bugger nos consoles de monitoring. Enfin, il y avait des trucs qui commençaient à être un peu recherchés, ouais.
C'est ouf.
Ouais, non, ça, c'était assez marrant, ouais.
Et ça peut arriver à n'importe quelle heure, j'imagine, ce genre de truc.
Souvent la nuit.
Il faut savoir qu'on a des systèmes d'astreinte où le téléphone peut sonner pour celui qui est d'astreinte. Donc quand tu te retrouves à 3h du matin en caleçon dans ta chambre en train d'essayer de sauver Doctolib qui prend un DDoS.
Tu te sens un peu super-héros finalement.
Là, pour oui, t'as un peu peur aussi de faire n'importe quoi.
Du mois d'août, toi t'avais le Covid, on en avait un qui était à un mariage.
Ouais, le mythe était rigolo.
C'était assez rigolo. Parce que ce que disait Clément tout à l'heure, c'est qu'on a des règles. En fait, au début, tu parlais de, il y a pas de sécurité parfaite. Nous, on en est bien conscients. Donc, en fait, on n'a pas cette approche-là. On veut pas faire du 100%, mais on veut réagir le plus vite possible à quelque chose qui est de l'ordre de la normale. Et donc, en heure ouvrée, c'est 5 minutes pour arriver dans la crise et commencer à mitiger l'incident. En heure non ouvrée, c'est 15 minutes. Donc, ça va assez vite. Et le but pour nous, c'est ça. C'est pas nécessairement d'arrêter ce qui se passe, mais c'est de s'assurer qu'il y a pas d'impact. Donc c'est comme ça qu'on réagit, c'est pour ça que oui, des fois t'as des gens en slip
en train de sauver l'infra. Et ça c'est beau. Juste pour réaliser, c'est quoi les conséquences, parce que vous êtes une entreprise, c'est un des trucs qui m'a fait tiquer d'ailleurs dans ce que t'as dit, c'est que t'as dit il y a des positions du gouvernement qui n'ont pas été appréciées et donc nous avons subi les attaques des DDoS. Ouais. Mais quel est le rapport entre Doctolib, vous êtes une entreprise privée, et les décisions de l'État.
En fait, c'est assez rigolo, mais il y a pas que nous qui sommes dans ce cas-là. C'est en fait, ça peut être un outil pour des activistes ou des pays qui veulent déstabiliser le gouvernement en place ou décrédibiliser des choix qu'ils ont faits. C'est ça. C'est pas juste faire tomber Doctolib, ça n'a aucun intérêt. C'est une attaque par rebond, si tu veux.
Comme vous êtes la solution choisie par le gouvernement et du coup décrédibiliser le gouvernement.
Par ricochet, en fait.
Exactement.
Parce que vous êtes le plus gros acteur de...
En tout cas, pendant la campagne de vaccination, oui, on était avec, encore une fois, d'autres solutions françaises aussi qui avaient été retenues par le gouvernement, parce qu'on n'était pas les seuls. Mais c'est nous qui avions la plus grosse volumétrie, et effectivement, on a été assez mis en avant pendant cette période-là. Ouais.
Est-ce que on a parlé d'attaque avec génération par IA, ce qui est quand même une des premières que j'entends, mais ça, on savait que ça allait arriver, entre guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres affaires un peu inhabituelles? Des attaques que vous avez subies qui sortent un peu de l'ordinaire.
On en a une, là, le SMS pumping.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air très intriguant.
En gros, SMS globalement, pumping. L'idée, c'est que nous, on va envoyer des SMS, notamment quand tu t'inscris sur Doctolib, pour s'assurer que le numéro de téléphone que tu inscris, c'est ton numéro de téléphone. On va t'envoyer un code, c'est un petit mécanisme qui est assez courant dans les inscriptions. Et globalement, il y a des attaquants qui vont automatiser l'inscription et en numéro qu'ils vont mettre pour leur numéro à eux, ils vont mettre des numéros de lignes surtaxées qu'ils ont ouverts eux-mêmes. Oh. Donc nous, on va leur envoyer un SMS sur une ligne surtaxée où on va les appeler parce qu'on a des mécanismes où on va appeler pour des gens qui sont par exemple aveugles. On propose d'appeler et donc on appelle sur une ligne surtaxée et eux récupèrent l'argent.
Oh, c'est diabolique.
Ouais.
Je savais même pas que ça pouvait marcher. Enfin, je sais pas, mais en fait, quand tu le dis, c'est logique, mais je me suis toujours dit que les services automatisés Eh ben, ils avaient pas la surtaxe, enfin, je sais pas, mais.
Non, c'est une attaque qui est super vieille, hein. C'est le principe des numéros surtaxés. Il y a quelques années, tu recevais des SMS où on te demandait d'appeler un numéro. T'appelles, toi, tu payes la communication et le revenu qui est généré, il y en a une partie qui est donnée à l'opérateur et l'autre partie qui revient à celui qui a acheté le numéro. C'est un moyen assez simple de se faire de l'argent.
Pour et du coup, on en a eu pas mal l'année dernière sur ça. Et donc, l'idée, c'est comment tu filtres parmi les milliers et les milliers d'inscriptions qu'on a tous les jours. Les numéros surtaxés, donc il y a des libs qui font ça, qui te disent tel numéro est potentiellement surtaxé. Après, c'est comment on réagit, est-ce qu'on bloque ce numéro, l'IP, le pays, le machin, enfin voilà.
C'est quand même fou que la seule solution, ce soit de faire des listes, enfin qu'il y ait des libs qui soient spécialisés à lister tous les numéros surtaxés.
C'est des libs de pas Google, c'est Google qui fait ça.
C'est quand même marrant.
Lib, phone lib number qui s'appelle.
Ok, sympa, on avait des chèques quand même. Je sais pas. Ils pourraient tous commencer par 0,8 par exemple.
On pourrait le faire, on pourrait se dire qu'on va limiter ça aux pays dans lesquels on opère, etc., ouais. etc. Mais dans les faits, c'est impossible, parce qu'on a des praticiens ou des patients qui se baladent un peu partout, qui vont avoir un numéro, parce qu'ils sont en vacances pendant, je ne sais plus, une bêtise, 4 mois en Thaïlande, ils veulent absolument prendre un rendez-vous quand ils reviennent. Voilà, c'est des cas d'usage.
Il faut pas embêter ces gens.
Et inversement, des touristes qui viennent en France, ils ont des numéros étrangers, du coup, enfin.
Ils ont des schémas très étranges. Non, mais c'est sûr, tout est toujours plus compliqué de façon que sur un tableau blanc. Je vous propose maintenant, parce qu'on a fait un peu un état des lieux, justement, de votre quotidien, finalement, de toutes ces attaques qui font des petits coups de stress, mais qui sont pas non plus à vous empêcher de dormir. Je vous propose de revenir sur, pour le coup, la plus grosse cyberattaque à laquelle vous avez dû faire face. Et voilà, nous expliquer un peu c'est quoi les coulisses d'une vraie bonne crise. Tout commence donc en juillet 2020.
Ouais, c'est ça ? Le 20 juillet
2020.
Alors, j'étais pas là, mais j'ai regardé, j'ai lu quand même. Parce que du coup, on a tout. Moi, j'ai les comptes rendus, les post-mortems, ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai lu tout ça.
Et alors, justement, on est en plein été, juste après le confinement. Jusqu'ici, tout va bien sur la plateforme. Quels sont les premiers signes qu'il y a un problème et dans quelles conditions vous êtes quand vous vous en rendez compte?
Alors en fait, ça a été détecté de manière automatique parce qu'on a quand même, bah, ça fait partie des outils de la Blue Team par extension, mais on a beaucoup de choses qui surveillent le trafic anormal. Et on a notamment un outil qui va générer des codes d'erreur HTTP spécifiques quand on va avoir trop de requêtes. Ça, quand on en voit trop dans un temps très court, ça fait sonner des alarmes automatiques. Donc c'est comme ça qu'on l'a détecté. Ça a été détecté à 2h15 du matin, je crois. Et ça déclenche automatiquement une crise.
Et donc ça voilà. Sonne. Il y a un téléphone qui sonne en gros.
Il y a quelqu'un qui se réveille et qui regarde ce qui se passe.
Ouais, parce qu'après on a de l'astreinte, t'as les astreintes de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si dans l'équipe il y a personne qui répond, à la fin, moi je suis réveillé.
Ok.
Ça c'est sûr. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Mais du coup, ouais, on a une astreinte qui tourne et donc du coup toutes ces alertes là. En journée, on a un duty qui s'occupe que de ça, qui tourne. Et la nuit, enfin en heure non ouvrée, on a quelqu'un qui est d'astreinte sur toute la semaine et qui a le droit de réveiller n'importe qui dans la boîte s'il a besoin.
Ok. Donc
ça c'est le début.
Ça c'est le début. Il y a une alerte quelque part que il y a quelque chose d'anormal.
Il y a beaucoup d'erreurs sur très peu de temps. Il y a d'un coup un pic de beaucoup d'erreurs.
Et dans ce cas-là, qui est le premier à agir dans cette histoire et qu'est-ce qu'il faut faire en gros?
Bah là, vu que c'est une alerte qui est générée par un outil de sécu, c'est quelqu'un de l'équipe sécu qui va aller regarder. Et il ou elle va commencer à faire l'analyse des logs, parce que du coup, on a les logs qui sont remontés en même temps que l'alerte. Et en creusant, on va s'apercevoir qu'il y a une certaine logique business qui est utilisée. Et là, c'est pas le rôle de l'équipe sécu de maîtriser 100% de la logique business qui est portée par le logiciel. La logique business étant, tu utilises une fonctionnalité A qui va appeler une fonctionnalité B, et puis si t'injectes un truc qui vient de C, t'as un résultat qui est Z, par exemple. Nous, on connaît pas ça forcément par cœur. Mais par contre, on connaît tous les...
Les briques.
Toutes les URL qui sont appelées, pour le dire de manière simple. Et quand on voit des combinaisons un peu bizarres, on va commencer à se poser des questions. Donc ça, c'est ce qui a été fait par l'analyse sécu. On a vu, ok, URL, enfin endpoint a été appelé par ça à telle heure, un nombre de fois assez inconséquent. Et donc là, du coup, on fait appel aux devs qui sont les propriétaires de cette fonctionnalité-là. Et on leur demande, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi?
Alors, c'est toujours 3 heures du mat ou?
Ouais, non, il se passe un peu de temps, quoi.
Okay, okay. Le temps de, justement, ouais, de remonter la piste.
Bah, en fait, le temps de l'analyse, ouais, c'est un peu long.
Salut! Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée. Et donc, vous allez voir ces développeurs. Qu'est-ce qui vous répondent? Est-ce que c'est bien normal?
Effectivement, c'est pas très normal ce qui se passe. qu'on a une IP qui va en creusant, on s'aperçoit qu'il y a un compte qui a 10 000 rendez-vous. On se dit, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui s'est créé 10 000 rendez-vous. C'est assez bizarre, on ne comprend pas l'intérêt. Et en fait, en creusant, on se rend compte qu'il ne s'est pas créé 10 000 rendez-vous, il s'est approprié 10 000 rendez-vous. Mais qui, à la base, n'étaient pas les siens. Et donc là, ça commence.
Ça commence à être chaud.
Alors, après, il faut trouver pourquoi il y a ces 10 000 rendez-vous-là et pas plus, et pourquoi cela. En fait, c'était des rendez-vous qui étaient dans un état un peu particulier. C'était des rendez-vous qui étaient pris pour des gens qui n'avaient pas de compte Doctolib, en fait. Donc, ils étaient dans un état intermédiaire où il y avait bien une heure de rendez-vous, bien un praticien, mais en face, il n'y avait pas de compte Doctolib.
Ouais, parce qu'il y a un truc qui est assez important de rappeler, c'est en gros, chez Docto, tu as trois moyens d'obtenir un rendez-vous avec un praticien. C'est soit tu as un compte sur l'appli, tu cherches, et tu trouves un praticien, facile, le rendez-vous il t'est assigné, il assigne au praticien, super simple. La réciproque est vraie, le praticien peut t'assigner un rendez-vous parce que tu as un compte, et tu as le troisième cas que décrit Clément, où en fait le praticien crée un rendez-vous pour quelqu'un qui n'a pas de compte Doctolib. Et donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que tu reçois un mail, et quand tu cliques sur le lien qui est dans le mail, le rendez-vous t'est assigné automatiquement, même si tu n'as pas de compte.
Et donc c'est un genre de cas spécifique.
C'est un cas qui est un peu particulier, donc c'est pour ça que ça concernait pas l'ensemble des rendez-vous Doctolib. Il n'était pas éligible à cette vulnérabilité. Mais en fait, dans le code, quand tu regardes, il y a un truc qui dit, en gros, si ce rendez-vous-là n'est pas assigné à un compte, la vulnérabilité est là, tu vas assigner le rendez-vous qui n'a pas de compte lié au compte courant. En fait, il se trouve qu'il y a un pirate. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu compte que la logique était celle-là. Il a cherché l'ensemble des rendez-vous, il a parcouru l'ensemble des rendez-vous, un grand nombre de rendez-vous, on va dire.
Au hasard,
Au hasard, c'est du brute force, typiquement du brute force, et il les a parcourus, et la logique faisait que c'était le compte qui venait voir ces rendez-vous, qui récupérait le rendez-vous. C'est comme ça qu'il a réussi à accéder à des infos.
Et ça marchait très spécifiquement sur cela.
Et ça marchait que sur cela.
Et donc, d'où le nombre 10 000.
Alors c'est moins que ça, 6466 okay. Si ma mémoire est bonne.
Rendez-vous et encore moins de patients.
Ouais, il y a beaucoup moins de patients.
Donc juste pour expliquer un peu pour tous ceux qui travaillent pas forcément dans la sécurité, là vous commencez à mon avis le voilà, il y a une petite goutte qui commence à arriver. Le stress commence un peu à monter parce que j'imagine que étant en plus dans une boîte de la santé qui met en relation des gens dans la santé, il y a une attention toute particulière à l'intégrité de la donnée et le fait qu'il n'y ait pas de fuite et tout. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, vous balisez quand même un peu?
On a des procédures. Alors, on balise pas dans le sens où tu le conçois, je pense. Parce que pour que la gestion d'une crise, ça marche bien, si t'as pas de procédure, c'est là où tu commences à être vraiment pas rassuré. Donc, on a quand même beaucoup de process qui décrivent ce qu'on doit faire, c'est timé, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de stress. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui rajoute du stress à une situation qui est pas normale, ça se passe en règle générale pas bien. Donc, on a des gens qui sont suffisamment seniors pour gérer ce genre de crise. Et puis, on a des niveaux d'escalade, hein. C'est sur un truc comme ça. Nos fondateurs sont au courant. Donc, on mobilise pas mal de gens. Évidemment, il y a une cellule de com qui va être mobilisée parce qu'il y a des actions de communication, on a des déclarations réglementaires à la faire, on a des dépôts de plaintes à faire à la police, etc. etc., etc. Mais encore une fois, pour nous, équipe sécu, équipe tech, l'objectif, c'est de s'assurer que, une fois qu'on a compris ce qui se passe, et donc ça, c'est ce qu'on doit faire le plus vite possible, c'est qu'on soit en capacité d'arrêter ce fonctionnement le plus vite possible. Pour ça, on se donne en règle générale un quart d'heure, c'est la métrique qu'on essaye de tenir. Alors, parfois, on prend plus de temps parce que l'analyse est plus longue, mais globalement, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, en gros, l'incident, dans toute son intégralité, de la détection jusqu'à la fin de la cellule de crise, ça a duré de 2h15 du matin jusqu'à 21h. Donc, c'est 19 heures de boulot non-stop avec pas mal de gens, et puis après, des effets un peu rebonds derrière, parce qu'il y a pas mal d'échanges. Mais à 14h, le patch était testé, il a été poussé en production, et on avait mis des règles qui empêchaient déjà
de réitérer l'attaque.
Quelqu'un d'appeler ses endpoints vulnérables.
Ouais. Avant ça, on avait même bloqué le compte.
Oui, le compte avait été bloqué. Ouais.
Encore avant, on a identifié qu'il y avait un seul compte qui s'attribuait beaucoup de rendez-vous. Ouais. Le compte, on l'a bloqué hyper vite. Et après, le patch, oui, il a été fait. Oui,
c'est ça. Ouais, le patch a été testé à 14h, et puis ça a été roll-out après dans la foulée. Donc,
ok. Voilà.
Mais la durée de cet incident au global, c'est 19
ans. Ouais, en fait, c'est super court. Ouais, c'est mais à mon avis, du coup, c'est une période où, où il faut être efficace.
Alors, on a une règle, c'est quand il y a un truc comme ça, on a le droit de mobiliser n'importe qui dans la boîte et tout le monde pose le stylo. La seule urgence, c'est de traiter ce truc-là. Bah, pour le reste, on s'en fiche, quoi.
Le patch a été écrit par un des fondateurs de Doctolib.
C'est dingue, parce que peut-être que ça concernait l'historique, enfin quelque chose qui était là dès le début et auquel il a participé, ou il y a une
non,
raison
même pas, pour le coup, même okay. pas, mais c'est un des fondateurs techniques du coup, et okay. c'est lui qui a fait le patch.
C'est une très bonne anecdote, effectivement. Et donc, bon, évidemment, tu parlais de la procédure, dedans il y a patcher le code le plus vite possible pour qu'il ne se produise pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, entre guillemets? Parce que j'imagine que.
Bah, sur la partie tech, en fait, ça s'arrête assez vite, hein. Une fois qu'on a compris la logique de l'attaquant, qu'on sait ce qu'il faut corriger pour pas que ça se reproduise. Après, les actions.
On a identifié les impacts, quels étaient les patients qui avaient été touchés, combien, quelles étaient les organisations à laquelle ils appartenaient. Enfin, voilà,
Donc il y a un peu de data crunching. Et après, donc la crise continue, hein, on fait la com, on fait les déclarations, on appelle la police, on appelle le BFTI, le CLCTIC, donc c'est les organismes cyber de la gendarmerie et de la police, et on leur partage les éléments parce qu'ils vont nous aider à faire les investigations, savoir d'où vient l'attaque, etc. Et après, évidemment, une fois que tout ça s'est passé et que c'est un peu retombé, on va se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? Donc c'est les fameuses actions de post-mortem dont parlait Clément tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en place pour que l'occurrence d'un truc comme ça devienne de plus en plus faible et tende vers zéro? Et donc là, il y a plein de solutions. Tu vas vouloir revoir des mécanismes de protection de ton code pour que ça soit plus fin, que ça te remonte des alertes plus vite, ou que ça soit moins sensible à une erreur de programmation. Toi, typiquement, que t'aies pas de nouvelles logiques business comme ça qui réapparaissent. Donc, à l'époque, on avait à peu près 20 000 tests de bout en bout dans notre chaîne d'intégration continue. Aujourd'hui, on en a 55 000. Donc ça, c'est donc une mise en prod. En gros, quand on valide la release, ça passe dans un cycle de tests. Il y a 55 000 tests de bout en bout qui sont joués. Ça dure 45 minutes. C'est poussé en prod après.
Donc en fait, pour expliquer, c'est une moulinette qui secoue le truc dans tous les sens pour vérifier que ça marche.
Là-dedans, t'as des tests sécu, t'as des tests fonctionnels. Enfin, il y a pas mal de tests. Donc ça, c'est une des conséquences de cette attaque. Mais on aurait quand même augmenté le nombre de tests parce que le nombre de fonctionnalités augmente.
Ouais, oui.
Forcément, les tests augmentent avec. On a investi un peu plus sur les primes qu'on offre dans notre bug bounty. Donc chaque année, on essaye d'augmenter les montants.
Alors juste pour expliquer en quelques mots, en quoi ça consiste.
Bug bounty, c'est tu payes des pirates pour qu'ils te remontent. Alors des pirates, des white hats, on appelle ça des pirates gentils, pour que globalement, ils te remontent des vulnérabilités. Et en fonction de ce qu'ils ont trouvé, tu vas les payer plus ou moins. Là, pour donner une idée... un pirate qui arrive à prendre le contrôle d'une des machines de Doctolib, on a une variable d'environnement dans tous les serveurs de Doctolib. S'il arrive à nous la donner,
c'est un flag secret, quoi.
C'est un flag secret. Il y a une adresse mail. Il écrit à cette adresse mail. Il va gagner 50 000 euros.
Et donc justement, un des effets espérés, c'est que on augmente les primes, et donc la probabilité que la faille tombe dans les bonnes mains devient plus importante que l'inverse.
C'est ce que font Google, Apple. Bon, ils sont sur des montants bien supérieurs aux nôtres, évidemment, mais c'est vraiment une des approches. Et après, il n'y a pas que ça. On a mieux redéfini aussi ce qu'on appelle les composants sur étagère. Donc, en gros, on a dans notre organisation tech, on a un domaine, parce que c'est comme ça qu'on a organisé. Donc, ça compte, c'est des développeurs, globalement, qui travaillent conjointement avec la Sécu pour créer des composants standardisés de sécurité qui sont donnés à toutes les autres équipes de dev. En fait, le but du jeu, c'est, t'y connais rien en Sécu, te pose pas la question, le truc qu'il faut que tu utilises pour faire X, il est là sur étagère, tu le prends.
Ne réinvente pas la roue, s'il te plaît.
Exactement. Tu lis la doc, tu l'implémentes comme ça, ça va marcher.
Et nous, on conseille ça. Nous, on dit à nos développeurs, mais regarde, dans la boîte à outils, il y a tel truc que tu vas utiliser, c'est hyper simple.
Et ce faisant, tu réduis la surface et la probabilité de bug.
En fait, tu sais juste que t'as qu'à te focaliser sur le composant qui a été développé, tu sais que s'il est utilisé, et donc du coup, son utilisation, tu la vérifies dans les tests, etc., etc. Donc, ça devient un cercle assez vertueux. On a augmenté aussi la taille de l'équipe sécu, mais parce que l'équipe tech a augmenté, donc la charge de travail augmentait. C'est pas vraiment directement lié à l'attaque. Et puis, on s'amuse maintenant avec la Red Team et la Blue Team. Ça, c'est l'outil interne qui est le plus prometteur pour nous, parce que c'est des gens qui connaissent très bien le produit, connaissent très bien l'infra. Donc du coup, ils ont un avantage par rapport aux attaquants. Et là, si ils arrivent à déjouer les mécanismes de protection, on va faire des travaux super vite.
Ouais, franchement, ce métier est trop marrant. Franchement, c'est vraiment marrant. Mais on dit parfois que être dans la blue team, ça peut être tout aussi fun.
Mais il y en a qui sont rogues un peu, il y en a qui sont blue team et de temps en temps, ils nous le disent pas et ils passent red team.
C'est vrai, on a quelques schizophrènes.
C'est moche. Et alors, pour faire un petit peu le bilan de voilà cette attaque qui est arrivée, c'est ce qu'on a dit en fait. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est quand ils voient des histoires comme ça, c'est pas se dire il y a eu une attaque, c'est pas bien. C'est plutôt se dire ok, comment ça a été géré, comment ça a été anticipé, parce que la réalité c'est que des attaques, ça arrive tout le temps chez tout le monde. Si on n'en entend pas parler, c'est probablement louche d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est en combien de temps on réagit, qu'est-ce qui a été mis en place, comment on s'améliore, etc. Et est-ce qu'on est déjà transparent avec la base de clients? J'imagine que par exemple faire une disclosure, comment dire, je sais pas quelle est la traduction, mais j'imagine que ça fait partie du process justement d'aller.
C'est même une obligation en fait. C'est un droit fondamental des utilisateurs. Donc on est obligé de le faire.
Et donc ça passe par un mail qui explique voilà très précisément ce qui a potentiellement été compromis.
Ouais, on va expliquer à quelle heure, quelle typologie de données, s'il y a des données impliquées, etc., etc. On va faire la même déclaration à la CNIL et aux autorités de contrôle dans les pays auxquels c'est arrivé pour la partie protection de données personnelles. Encore une fois, s'il y a de la donnée personnelle impactée, service de police, etc., etc.
Et alors question qui me brûle les lèvres, mais peut-être que vous n'aurez pas la réponse. C'est toujours ce qu'on a envie de savoir. C'est, est-ce qu'on sait un peu d'où ça vient? C'est-à-dire, qui aurait pu faire ce genre de truc?
Alors, ouais, on sait. On sait. On pense savoir.
On a des idées sur des hackers éthiques, mais...
Ah oui, donc ce qui serait plutôt le bon scénario.
C'est des hackers éthiques qui n'ont pas été très sympas parce qu'ils n'ont pas vraiment joué le jeu de l'éthique, pour le coup.
Ok.
Il y a un compte, le compte a été créé, le compte qui a rassemblé 10 000 comptes, les 10 000 rendez-vous, là. Il y en avait 6 000, enfin...
Ouais, simulé.
Mais globalement, ce compte-là, il a un numéro de téléphone, une adresse mail. On a écrit à l'adresse mail, on a laissé des messages sur le téléphone. On n'a jamais eu de retour. On s'est persuadé que il est valide.
Chances que ce soit vraiment les siens,
ouais.
Quoi.
Ouais,
aujourd'hui, on le sait parce qu'on a eu affaire à cette personne ou ce groupe de personnes-là plus récemment sur un autre sujet. Donc maintenant, on collabore avec eux.
J'imagine.
Ça a été confirmé. Okay. Officiellement, mais on...
Ok, vous avez des bonnes raisons de penser, entre guillemets.
On a un très très beau faisceau de preuves. Ouais.
Et donc, cette personne a potentiellement mal géré, entre guillemets, sa com à ce moment-là, parce que dans les faits, c'est quand même le scénario vachement rassurant. C'est-à-dire que si ça vient d'un pays étranger ou un truc comme ça, ça pose quand même de sérieuses questions. Ouais. Là, c'est le scénario pour les clients le plus rassurant. Ça veut dire que dans les faits, ces données n'ont peu de chances de refaire surface.
On les a jamais revus. Voilà. On a des mécanismes de surveillance effectivement sur tout ce qui est Darknet et compagnie. Pour l'instant, on les a jamais revus en tout cas. Ouais.
Mais c'est quand même curieux de sa part parce que normalement, si on fait ce genre de truc, c'est pour avoir une prime de bug bounty, des choses comme ça.
C'était plus des conférences et des trucs comme ça.
C'était plutôt pour démontrer quelque chose.
Ok.
Dans une conf de hacker éthique qui est très très connue pour le coup.
D'accord. Ok. Ouais, pas mal. Effectivement, c'est pas un scénario anodin.
Où ils ont pas joué le jeu, c'est que vraiment on savait quasiment depuis le début que c'était eux. On les a contactés et ça a été lettre morte pendant 3 ans. Maintenant, on discute avec eux. C'est
mieux vaut tard que jamais.
C'est la beauté c'est la belle finalité de l'histoire. Okay.
On va dire ça. En tout cas, si vous trouvez des trucs chez Doctolib, qu'est-ce qu'on peut inviter les gens à faire?
Bug Bounty.
Allez voir le Bug Bounty.
Ouais, on a une page sur le site. On utilise aussi une norme qui s'appelle security.txt, doctolib.fr/security.txt. Vous allez trouver toutes les infos.
C'est un fichier pour les hackers, en fait.
Ouais, c'est une norme, en fait. Donc, il y a une adresse mail, des URL, la clé PGP, voilà. Et puis, on a tout le programme de Bug Bounty qui est décrit avec les conditions d'acceptation des bugs, comment on vous enrôle, à quel montant on vous rémunère, etc., etc.
Très cool, très cool. Petite question supplémentaire. On a beaucoup parlé ici d'attaques virtuelles, entre guillemets, à distance. Est-ce que vous avez pensé également à des scénarios d'attaques physiques, genre d'intrusion littéralement dans les data centers de l'entreprise ou chez vous?
L'amoureux du lockpicking qu'on retrouve.
C'est vrai?
Bah toi, non, c'est bien.
Ouais, c'est un truc qu'on joue régulièrement. On appelle ça, enfin, on joue deux attaques en fait. On joue ce qu'on appelle le test du stagiaire. Donc c'est juste pour vérifier que des accès qu'on va donner à, sur un compte qui a très peu de privilèges. Donc on mandate une société hein, pour faire ça. On leur donne un ordinateur avec un compte vraiment avec le plus bas privilège et on regarde ce qu'ils sont en capacité de faire. Donc ça, on le fait une fois par an. Et on fait des audits physiques de nos bureaux. Donc le dernier qui était assez marrant, c'est celui qu'on a fait à Berlin. Et là, ouais, ils se sont amusés. Donc ils se sont déguisés en agents de ménage. Ils ont réussi à faire réellement croire aux gens qu'on a à l'accueil là-bas qu'il leur manquait un badge, donc ils ont récupéré un badge qu'ils ont dupliqué après. Ils se sont baladés dans les locaux, ils ont recréé des clés et ils sont allés jusqu'à s'amuser à rentrer dans une salle où on a un coffre-fort mais qui stocke des papiers
légaux,
des papiers légaux quoi, en gros des contrats, des choses comme ça ou des déclarations.
Pas mal, bonne prise.
Ils ont pas réussi.
Ils ont pas réussi, mais par contre, ce qui était assez marrant, c'est qu'ils ont mis de l'encre ultraviolette sur les touches
pour prouver le passage.
Non, ils sont revenus le lendemain, ils ont récupéré donc la combi. Enfin, ils ont récupéré avec l'encre anti-violette l'étendue des chiffres qui sont utilisés pour la combinaison. Mais vu qu'il y en a beaucoup, ils n'ont pas réussi à retrouver le code.
Mais je connaissais même pas cette technique-là. Donc en fait, on prend un clavier.
Tu peins le clavier avec de l'encre
dont on ne connaît pas le code secret et
là où il y a des traces de doigts.
Tu veux ouvrir le coffre, c'est ton coffre. Tu vas taper la combinaison, donc 4, 6, 8, 12 chiffres, peu importe. Et le lendemain, tu reviens avec ta lampe ultraviolette et tu regardes où il y a les traces d'empreintes sur les numéros.
Mais t'as pas l'ordre.
Ils n'ont pas l'ordre. Mais c'est du génie. Ça paraît évident maintenant que vous le dites. Et donc, effectivement, après, on fait des chaînes, je sais plus quel est leur nom, là. C'est Markov, oui.
Ouais, c'est Markov.
On essaye de faire une chaîne qui contient l'ensemble des codes et avec un peu de chance, s'il est pas trop long, ça fonctionne. Mais là, ça n'a pas marché.
Plus il est long, plus ça va être.
Puis ça prend du temps.
Ouais. Exactement.
Très stylé.
Donc, voilà, ça, c'est des trucs qu'on fait.
Après, d'un point de vue sécurité informatique pure.
Ouais.
On est dans une infrastructure qu'on appelle Zero Trust. Donc globalement, en fait, tu viens dans nos locaux, tu te branches, t'as pas accès à plus de choses que si t'étais sur Internet.
Ok.
Donc en soi, l'intrusion physique est pas
va pas débloquer
grosse menace quoi.
Ouais. Sur le papier.
Ouais.
Et est-ce que vous avez d'autres des petites filouteries en interne qui vous permettent de vous auditer? J'en sais rien.
Toujours la Red Team qui s'amuse bien. Ouais. Dernièrement, ils ont fait quoi? Ils ont mis un Rogue Access Point Wi-Fi dans les locaux pour voir si on arrivait à choper quelqu'un qui s'était fait avoir.
Donc ça, qu'est-ce que c'est pour expliquer?
En gros, l'idée c'est de.
On a un Wi-Fi interne.
On a un Wi-Fi interne avec de l'autorente classique. Hein. Et l'idée c'est de créer un SSID qui ressemble très très fortement au SSID.
Donc le nom du Wi-Fi.
De Docto, et ils ont mis un Raspberry Pi dans le faux plafond qui générait un faux Wi-Fi et ils ont regardé s'il y a des gens qui se connectaient dessus. Donc là-dessus, on a beaucoup de chance, je trouve, parce qu'on a une population qui est assez bien éduquée sur la sécurité.
Bah ouais, parce que franchement.
Donc les gens ont pas fait gaffe.
Un Wi-Fi avec pile le bon nom, une connexion automatique potentiellement sur certains appareils, une petite page de connexion.
Alors, tu le verrais pas, mais t'imagines, imagine que le nom du Wi-Fi c'est Doctolib, tu mets un espace devant. Si tu fais pas gaffe, en fait, t'as vraiment l'impression que c'est Doctolib le Wi-Fi ou tu le mets derrière. Le SSID, c'est vraiment pas le même. Mais pour toi, humain, t'as vraiment l'impression que c'est le même. Donc ça, pour le coup, les gens sont assez vigilants parce que ils ont l'habitude des méthodes d'authentification. On les embête beaucoup avec du phishing. On leur envoie des mails de partout. Donc voilà, il y a un truc. Le dernier truc qu'on a fait, c'est qu'on a imité Pierre, là, notre CFO. On a envoyé des trucs à des gens en disant vas-y, faut que tu signes ça, machin. Et évidemment, ils se sont fait avoir. Bon, voilà, on fait plein de trucs comme ça.
Ils se font piéger tout le temps.
Non, mais c'est hyper intéressant, en tout cas, de voir un peu la gamme, de comprendre que c'est pas, y a pas de recette magique entre guillemets qui fait qu'on se fait jamais pirater, mais c'est un peu tout un système en fait. Qui commence dès le développement avec toi, ton métier, en ayant des bonnes pratiques, qui va jusqu'à le moment où il y a la crise, comment on fait en sorte qu'elle soit la plus courte et qu'elle ait le moins d'impact possible, jusqu'à après, comment on s'améliore et comment on a des process. Et ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est pas tellement que vous ayez des attaques, ça on se doute avec votre exposition, mais c'est surtout que vous avez tout préparé, en fait, que pas tous les scénarios,
peut-être,
mais...
Peut-être pas tout, mais en fait...
Vous n'êtes pas du tout en terrain inconnu quand il y a une crise qui arrive, quoi.
Ouais, bah le vrai bon résumé de ça, c'est les militaires qui l'ont inventé, c'est le concept de défense en profondeur. Donc tu regardes les forteresses médiévales, le donjon, il n'était pas juste derrière le pont-levis. C'est ce qu'on fait pareil en informatique en fait. Ou une bonne analogie, c'est tu protégerais pas ta maison juste avec une porte d'entrée et tu laisserais toutes tes fenêtres ouvertes. Tu vas fermer tes fenêtres, tu vas fermer ta porte d'entrée, tu vas pas laisser tes bijoux ou ton cash juste derrière la porte d'entrée s'il y a quelqu'un qui l'a payé, etc., etc. Donc l'analogie pour la sécu, c'est vraiment la même. Il faut que tu rendes le plus difficile et le plus long possible pour un attaquant d'aller chercher ce qui coûte vraiment énormément de valeur.
Pour qu'il aille voir d'autres personnes.
Oui, faut rendre l'attaque la plus pénible possible, pas
exactement.
Impossible, car ça n'est pas,
c'est impossible d'être impossible.
Voilà.
Par contre, le plus long, le temps que nos alertes elles réagissent, parce que on connaît pas tout, hein, les attaquants. En fait, il y a une bonne maxime pour ça, c'est les attaquants, ils ont besoin de trouver une fois un truc qui marche. Les défenseurs, ils ont besoin d'être 100% du temps dans le vrai, ce qui est impossible.
Ouais. Et donc, ce qui compte, c'est de faire en sorte que l'attaque soit tellement pénible qu'elle n'est plus rentable aussi. Parce que...
Pas rentable, mais... ou qu'on ait vraiment le temps de la détecter.
Ouais.
Parce que quand tu vas... Enfin, je reprends l'exemple de la maison. Tu casses une porte, si tu as une alarme, tu sais qu'elle va sonner à un moment. Bon, si ton alarme, elle n'est pas sur la porte, mais que tu l'as mis autre part, l'attaquant... Ouais, c'est exactement le même principe pour nous. Donc, on a des alarmes un peu partout, pour toutes les portes qu'on a mis en place. Et plus t'en fais sonner...
Qu'il se fasse gauler par une des alarmes.
Voilà, c'est une ça. Seule, ça suffit.
Très très cool, en tout cas c'est vraiment passionnant et effectivement c'est très cool de faire, je trouve, ce genre de discussion parce que ça permet aux gens de réaliser que souvent la partie de défense elle aurait été bien plus intéressante et complexe. Les deux sont passionnants, mais il y a un côté un peu moins sexy entre guillemets à la défense qui fait moins rêver, on voit moins ça dans les films, alors que en réalité c'est passionnant c'est construire une forteresse entre guillemets. Et c'est vraiment un métier très cool, quoi.
Là, pour donner un exemple, moi, je travaille sur... On a des projets qui utilisent de l'IA et des choses comme ça. Je travaille sur des LLM et on en parle souvent dans Underscore. Genre,
c'est ça.
Je sais. Et on a des concepts qu'on est en train de regarder, là, qui s'appellent les Sleeper Agents. C'est le principe des agents dormants dans le milieu de l'espionnage. Le principe, c'est d'apprendre à ton modèle à réagir à des mots-clés. Lui dire, à partir du moment où il y a tel mot-clé dans le prompt... tu vas générer du code qui est pas sécure, par exemple. Et du coup, c'est très compliqué à auditer puisque tu sais pas quel est le mot-clé. Quand si tu vas voir les poids, toi, tu verras rien. C'est pas vraiment déterministe, ce genre de code. Donc voilà, on a des concepts qui sont hyper sexy, sans pour l'instant de recettes sur comment on gère ça.
Tu pourrais avoir des IA, des assistants pour développeurs, en fait.
Ouais.
Qui, la plupart du temps, marchent nickel.
Ouais.
Mais de temps en temps, de manière un peu aléatoire. Créer des vulnérabilités exprès.
Imagine un modèle open source qui aurait été backdooré avec ça, et utilisé par tout le monde.
J'avoue.
Mistral, tu l'envoies à tout le monde. Dedans, il y a une backdoor. Là, typiquement, dans le papier qui a exploré ce genre de truc, les gens qui ont fait ça, c'est les gens qui font Claude, qui est aussi
Anthropique,
qui ont exploré ce concept. Et typiquement, ils ont fait ça sur la date. Ils ont dit, si on est en 2023, tu fais tout normal. 2024. La date est souvent dans le contexte que tu vas donner à ton LLM.
C'est dingue.
2024, il fait n'importe quoi.
C'est dingue. Donc tu pourrais créer un modèle de langage qui marche nickel jusqu'à une date précise, le D-Day, où
il fait n'importe quoi.
Il part en cacahuète et il met des vulnérabilités partout. C'est incroyable.
Donc on explore des trucs sexy aussi.
J'avoue. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Bah, franchement, ça m'a donné envie d'en parler. Peut-être qu'on te rappellera pour une chronique. mais en tout cas, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens si jamais tout ça les a intéressés, soit pour se former à ça ou pour postuler à des endroits. Est-ce que ça recrute?
Chez Docto, on recrute toujours beaucoup de gens, pas forcément que sécu, mais en ce moment beaucoup côté tech, donc des développeurs intéressés et qui ont un bon background sécu, c'est toujours bienvenu. On prend aussi des alternants, des stagiaires, on a des liens avec l'EPITA aussi notamment. Donc on a un cursus, on a une major sur la dernière année santé qu'on co-construit avec l'EPITA. Donc il y a un site carrière sur Doctolib, allez-y. Après nous on est joignable sur Twitter, LinkedIn, à peu près partout. Donc si vous voulez discuter avec nous, avec plaisir. On divulguera peut-être pas toutes les recettes de cuisine, mais ouais, toujours avec plaisir. Ouais.
Trop cool. C'était vraiment très très intéressant. Merci à vous d'être venus. Et puis j'espère que le chat vous avait apprécié. C'est pas tous les jours, je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas à envoyer du love à Doctolib de s'être un peu jeté hello avec nous. Et si vous avez vécu des trucs dans votre entreprise, des crises, des trucs intéressants à raconter qu'on n'ose pas forcément raconter, sachez que ici est un bon endroit pour le faire. Donc n'hésitez pas à venir et à partager comme Doctolib l'a fait leur expérience pour que on apprenne tous des trucs tout simplement. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur Underscore. Tchuss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.